Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal, François-Xavier de Calonne. Les autorités marocaines suspendent pour 2 semaines tous les vols commerciaux vers le Maroc en cause la propagation rapide du nouveau variant du virus du Covid-19 Omicron. Une réunion intergouvernementale consacrée à la lutte contre l'immigration clandestine et les réseaux de passeurs ce dimanche. Une réunion après le drame de cette semaine et la mort de 27 exilés dans la Manche. Notre invité sera le président de France Fraternité, l'ex-directeur général de France Terre d'Asile, Pierre Henry. Les élections communales et départementales, ce samedi en Algérie, quelques 35% des électeurs se sont rendus aux urnes. Cela représente plus de 8 millions d'Algériens. Retour dans votre journal sur la 10e édition du Festival international de cinéma et de mémoire commune, Anador, au Maroc. La programmation a été placée sous le thème « Le cinéma et le monde de l'après-Covid ». Nous écouterons le président du festival, l'ancien ministre marocain Abdeslam Siddiqui. L'invité de la bibliothèque de Radio Orient ce dimanche à 19h est Alain de Savigny pour La joie de l'âme, l'incroyable destin d'Inès de Bourgoin, maréchal lyotais aux éditions Éric Bonnier. Il évoque notamment le rôle de l'épouse du résident général au Maroc lors du protectorat, extrait de votre journal. Les autorités marocaines ont donc annoncé ce dimanche la suspension pour 2 semaines de tous les vols commerciaux vers le Maroc, cela à partir de ce lundi à 23h59, en cause de la propagation rapide du nouveau variant du Covid-19, Omicron, notamment en Europe et en Afrique. Il s'agit, selon le comité interministériel de suivi de la pandémie, de préserver les acquis réalisés par le Maroc dans la lutte contre la pandémie et de protéger la santé des citoyens. Le Royaume avait auparavant décidé de suspendre les vols réguliers à destination et en provenance de France, ainsi que les liaisons maritimes à partir de ce dimanche soir à 23h59. Une réunion ce dimanche à Calais autour de la question des migrants, une réunion intergouvernementale consacrée à la lutte contre l'immigration clandestine et les réseaux de passeurs après le drame de cette semaine, la mort d'au moins 27 exilés dans la Manche, entretien avec l'ex-directeur général de France Terre d'Asile, président de France Fraternité, chercheur à l'IPSE, Pierre Henry.
Il n'y a pas une réponse unique à opérer. Il y a des réponses qui consistent d'abord à informer tout au long du parcours migratoire des droits des demandeurs et de la situation dans le pays. C'est vrai pour la France, nous devons informer plus. Et puis, il y a évidemment à respecter des droits fondamentaux et à faire en sorte que les personnes qui veulent demander l'asile en Grande-Bretagne puissent le faire de manière souple. D'abord, parce que certains veulent absolument aller en Grande-Bretagne parce qu'ils sont anglophones, parce qu'ils ont de la famille de l'autre côté, parce qu'il y a une communauté importante. Et donc, examiner leurs demandes de manière souple, ça veut dire clairement instaurer une voie de migration légale. C'est vrai également pour le regroupement familial. Alors, j'entends un discours récurrent qui est celui de la lutte contre les passeurs, bien sûr, qu'il faut lutter contre les passeurs. Qui peut dire le contraire? Il faut lutter contre les trafiquants d'êtres humains. Mais enfin, ça ne suffit pas.
Et vous estimez qu'il faut oser parler aujourd'hui de régularisation, même si cela est difficile en période électorale?
Moi, je constate qu'à Calais, il y a un certain nombre d'Érythréens, de Soudanais, d'Afghans qui sont dublinés et qui, de toute façon, ne veulent pas repartir dans le pays de premier accueil et dans un certain nombre de premières entrées sur le territoire de l'Union. Et ça, on les comprend plutôt, parce que le système d'asile est très inégal en Europe. Et puis, il y a aussi à Calais un certain nombre de personnes qui sont déboutées définitivement de leur demande. Vous savez, en France, aujourd'hui, on déboute des personnes qui viennent d'Afghanistan. On considère qu'ils n'ont pas d'opinion politique véritable, ils n'ont pas manifesté d'opposition véritablement aux talibans, donc on les déboute. Mais en même temps, et fort heureusement, on ne les renvoie pas. Et donc on les laisse sur le territoire en totale précarité. Qu'est-ce qu'il leur reste à faire? Ben, essayer de tenter le passage vers un autre pays. Et donc c'est la raison pour laquelle je dis qu'il faut avoir le courage aujourd'hui, même en période électorale, de parler de régularisation. Vous savez, à quelques centaines de kilomètres d'ici, on regarde la question de l'immigration d'une autre manière. C'est en Allemagne. et c'est une coalition majoritaire. Donc il n'y a pas de fatalité à ce que nous nous laissions gagner par un discours zémourien et lepéniste dans notre pays autour de la question de l'immigration. Il faut que les politiques se ressaisissent. Il est plus que temps. Et se ressaisir, c'est parfois être aussi courageux et pragmatique. Et le pragmatisme et le courage aujourd'hui, c'est de régulariser un certain nombre de personnes que, de toute manière, nous ne renverrons pas vers leur pays d'origine.
Comment s'explique aujourd'hui la multiplication des traversées ou tentatives de traversées vers le Royaume-Uni?
Il y en a eu 30 000 depuis le début de l'année, 30 000 depuis Calais et tout le littoral. Calaisien, bah, vous fermez toutes les portes, vous fermez toutes les portes. Eh bien, les réseaux travaillent sur une autre porte. Vous savez, quand vous êtes à Calais, par beau temps, vous voyez Douvres. C'est 17 kilomètres, voilà, vol d'oiseau. Et donc, les gens qui viennent de faire des milliers de kilomètres touchent des yeux leurs rêves. Bien évidemment que les passeurs en profitent. Voilà, c'est la raison pour laquelle j'appelle à une voie de migration légale. Alors bien évidemment, j'ai entendu la réponse de Boris Johnson qui dit « mais que la France reprenne tous ceux qui ont tenté un passage illégal ». Évidemment, on a là la posture d'un leader populiste, menteur, manipulateur, qui instrumentalise la question lorsqu'il dit qu'il veut reprendre le contrôle sur les frontières. Eh bien, très bien, qu'il reprenne le contrôle de la frontière et qu'il l'installe à Douvres, mais pas à Calais.
Pierre Henry, ex-directeur général de France Terre d'Asile, président de France Fraternité, chercheur à l'IPSE. Le pape François a exprimé aujourd'hui sa douleur pour les migrants morts mercredi, pour ceux bloqués à la frontière Bélarusse et pour ceux qui meurent en Méditerranée, tout en rejetant tout type d'instrumentalisation. Les élections communales et départementales ce samedi en Algérie, quelque 35% des électeurs se sont rendus aux urnes. Cela représente plus de 8 millions d'Algériens, une participation plus élevée que lors des précédents scrutins. Le président Tebboune a qualifié ces scrutins de dernière étape pour l'édification d'un État moderne. Face aux inquiétudes suscitées par la propagation du nouveau variant Omicron du coronavirus, l'Arabie Saoudite a suspendu ce dimanche ses liaisons aériennes avec 7 nouveaux pays, le Malawi, la Zambie, Madagascar, l'Angola, les Seychelles, Maurice et les Comores. Riyad avait déjà interrompu vendredi les vols à destination ou en provenance d'Afrique du Sud, de Namibie, du Botswana, du Zimbabwe, du Mozambique, du Lesotho et de l'Eswatini. 13 passagers partis d'Afrique du Sud et diagnostiqués positifs au Covid-19 vendredi à leur arrivée à Amsterdam sont porteurs du variant Omicron du coronavirus. Une annonce aujourd'hui des autorités sanitaires néerlandaises. En France, le ministre de la Santé estime qu'il est probable qu'il y ait déjà des cas dans l'Hexagone. Retour sur la 10e édition du Festival international de cinéma et de mémoire commune à Nador, au Maroc. C'était du 15 au 19 novembre dernier. La programmation a été placée sous le thème « Le cinéma et le monde de l'après-Covid ». Entretien avec le président du festival, l'ancien ministre marocain Abdeslam Sediki.
La 10e édition du Festival international du cinéma et de la mémoire commune, a atteint les objectifs qui lui ont assignés. D'abord, en reprenant la vie culturelle dans une ville qui connaît une dynamique économique sans précédent, le temps de donner la possibilité aux gens de voir un certain nombre de films qui ont été soumis à la compétition, d'assister à un certain nombre d'activités à caractère culturel et sociétal. Au-delà, bien sûr, de la compétition cinématographique, il y a l'activité, une grande activité internationale sur le monde post-Covid et la place de la Méditerranée dans cette évolution-là, avec la présence d'éminents chercheurs et professeurs des deux rives de la Méditerranée, notamment de la France, d'Espagne et du Maroc, bien sûr. Au cours de cette manifestation, on a essayé de nous projeter dans le monde post-Covid, le monde que nous souhaitons de tous nos voeux, un monde on règne plus de justice sociale, plus de solidarité, plus de coopération, moins de pauvreté. Nous avons essayé de mettre en exergue le rôle des pays méditerranéens dans cette dynamique à travers la résolution d'un certain nombre de problématiques relatives à l'immigration, relatives bien sûr au réchauffement climatique, relatives à la question du terrorisme. Donc voilà les grandes questions qui nous sont communes. Parallèlement à ça, on a organisé une activité qui s'est adressée aux jeunes étudiants, en partenariat avec le ministère de la Justice et qui a porté sur l'abolition de la peine de mort. Comme vous le savez, il y a un débat chez nous au Maroc actuellement pour l'abolition de la peine de mort. Et nous avons estimé nécessaire de participer à ce débat sur l'abolition de la peine de mort qui devient une exigence politique et sociale considérable.
Il existe aujourd'hui un moratoire au Maroc, la peine de mort n'est plus appliquée. Et vous, vous demandez donc son abolition officielle et définitive.
Exactement. Pour mémoire, pour rappel, grâce à ce moratoire, des dizaines de peines de mort, mais aucune n'a été exécutée depuis 1993. Le moratoire est la solution de compromis en attendant l'abolition pure et simple de la peine de mort.
Vous présidez ce Festival international de cinéma et de mémoire commune et vous avez remis un prix à une ancienne ministre française qui dirige aujourd'hui une ONG, Najat Vallaud-Belkacem, le prix Mémoire pour la démocratie et la paix. Qu'est-ce que cela représente?
Ce prix, on l'a instauré il y a 5 ans exactement, en 2016. Nous avons estimé que pour justement donner une réputation internationale à notre festival, parce que c'est un festival de cinéma, mais c'est un festival de cinéma qui a un cachet particulier. Il est cinéma et mémoire commune, renforcement de la démocratie et de la paix. Et donc nous avons instauré ce prix-là international de paix et de démocratie que nous accordons chaque année à une personnalité morale ou physique qui contribue au développement de la paix et au renforcement de la démocratie. Pour rappel, nous l'avions, en 2016, c'était pour, on l'a donné au secrétaire général de l'UGTT, l'Union Générale des Travailleurs Tunisiens. En 2017, c'était à la Fondation Trois Cultures Espagnoles. En 2018, c'était à l'ancien président Zapatero. En 2019, c'était au vice-président colombien, M. Santos. L'année dernière, on n'a pas pu donner ce prix-là. Et donc, et cette année, nous avons choisi, après concertation entre nous, de l'accorder à Najat Vallaud-Belkacem.
Et pourquoi Najat Vallaud-Belkacem? Pour quelle raison a-t-elle été ainsi récompensée?
Outre le fait qu'elle organise, qu'il préside une association qui travaille dans, justement, comme vous venez de le dire, dans la question du droit de l'enfant et de la lutte contre les inégalités sociales. Donc, ça renforce la démocratie. Il a assumé quand même, il a un parcours personnel en tant que jeune fille qui a immigré et qui a vécu dans des conditions à la limite de la misère, qui est une fille originaire du RIF, originaire de la région, qui a pu accéder à des hautes responsabilités grâce au travail qu'il a accompli, grâce à son mérite, mais en même temps le travail qu'il a fait au temps où il était ministre. On ne peut pas nier tout ce qu'il a fait pour les droits de l'enfant, les droits de la personne humaine. Et c'est à ce titre-là que nous avons opté pour Najat Vallaud-Belkacem.
Le cinéma et le monde de l'après-Covid, hein, c'était l'intitulé d'une conférence que oui. Vous avez présidée. Ce monde de l'après-Covid, c'est bien entendu une question sur laquelle vous réfléchissez, Monsieur le Ministre.
C'est une question sur laquelle on réfléchit et on compte même prolonger cette réflexion dans 2 mois à Ifrane. Nous avons un centre aussi, le centre qui organise le festival. Nous organisons chaque année des festivités pour fêter l'année Amazigh. L'année Amazigh, et chaque année, donc l'année prochaine, en janvier 2022, nous allons organiser, poursuivre cette réflexion-là sur le monde post-Covid. Parce que, à vrai dire, rien n'est tranché jusqu'à maintenant. Personne ne peut dire d'abord, est-ce qu'il y aura une fin du Covid-19? Où est-ce qu'on va vivre avec longtemps avec cette pandémie et quel monde va se profiler à l'horizon.
Le président du Festival international de cinéma et de mémoire commune à Nador au Maroc, l'ancien ministre Abdeslam Siddiqui. L'invité de la bibliothèque de Radio Orient ce dimanche à 19h est Alain de Savigny pour La joie de l'âme, l'incroyable destin d'Inès de Bourgoin, maréchal Lyoté aux éditions Éric Bonnier. Il évoque notamment le rôle de l'épouse du résident général au Maroc lors du protectorat, extrait de cet entretien.
Alors, effectivement, je n'ai pas écrit un livre sur Lyoté. On ne peut pas éviter de parler de Lyoté, qui était un personnage considérable, non seulement sur le plan militaire ou colonial, mais aussi sur le plan philosophique et social. Et ce livre est orienté, évidemment, sur sa femme, Inès de Bourgoin, qui est devenue la maréchale Lyoté. L'œuvre qu'elle a laissée au Maroc existe encore aujourd'hui. Elle a créé des centaines de dispensaires, de maternités, d'hôpitaux importants, des maisons de retraite, tout un tas de choses qui font que sur ce plan médical et social, le Maroc est rentré dans le XXe siècle et s'est développé beaucoup depuis. Et ce souvenir est quand même resté à travers, il y a une maternité lyotée, etc. Donc, il y a quand même, même si le nom n'apparaît plus beaucoup au Maroc, il reste quand même l'œuvre. Bon, peut-être que dans les décennies suivantes, quelqu'un d'autre aurait fait aussi des choses. Mais elle, c'est vraiment, elle est partie de zéro jusqu'au fin fond du bled. Elle avait organisé des espèces de petits convois tirés par des ânes, des chevaux, des bœufs pour porter le soin médical au fin fond de l'Atlas ou du Tafilelt ou du bled, etc. Et quand on arrivait là, quand c'était un lien social avec le reste du pays. Donc c'est très important.
Alain de Savigny, invité de la bibliothèque de Radio Orient ce dimanche à 19h pour La Joie de l'âme, l'incroyable destin d'Inès de Bourgoin, maréchal lyotée aux éditions Éric Bonnier, émission présentée par Loïc Barrière. Fin de cette édition, très bonne suite de programmes à l'écoute de Radio Orient.